France Culture.
Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Dans l'enquête que cette série essaie d'illustrer, Contexte des sexualités en France, sous la direction d'Armel Andreau, Nathalie Bajos et Caroline Moreau, et dont les premiers résultats ont été publiés le 13 novembre 2024, il y a une question qui nous intéresse pour cet épisode et qui a été posée, comme les autres, à 32 000 personnes de 15 à 89 ans. Une question de santé publique formulée ainsi. Concernant la dernière fois que vous avez eu des pratiques sexuelles, aviez-vous pris volontairement 1. Plusieurs verres d'alcool, 2. Du cannabis, de l'herbe, de la marijuana ou du hashish, 3. De la cocaïne, MDMA ou ecstasy, 4. D'autres produits, 5. Des produits inconnus. On le devine évidemment, la grande tendance des réponses, c'est l'alcool, mais les chiffres sont moins importants que je l'imaginais. Ainsi, il et elle sont seulement 15% des hommes et des femmes à déclarer qu'il y a eu de leur part ou de la part de leur partenaire une consommation d'alcool lors du dernier apport. On écoute cependant ce que ça fait à la première personne, comment et pourquoi l'alcool et le sexe se mélangent plutôt mal, avec l'histoire de deux personnes qui en prennent conscience par Pauline Verdusier.
Je m'appelle Louis, j'ai 31 ans, j'habite à Montreuil et je travaille en recherche et développement. J'ai découvert la sexualité par le porno et les discussions dans les cours de récré. Je viens d'une famille où on parlait pas de ça, et pas d'éducation sexuelle, ni en cours d'ailleurs. Donc ça volait pas très haut, quoi. Mais c'était quelque chose que j'étais pressé de faire parce qu'il y avait un peu cette pression... qu'on avait de « Ah, t'es toujours puceau », etc. Et j'ai fait mes premières préliminaires quand j'avais 13 ans. Est-ce que j'avais l'anxiété de le faire ? Pas tellement. J'avais une petite appréhension, mais c'était pas non plus une grosse anxiété. Par contre, il y avait un vrai terrain anxieux à côté que j'avais dans ma vie personnelle et qui a eu un impact par la suite. J'avais un père très anxieux et qui m'a toujours communiqué une certaine forme de peur, d'appréhension par rapport à l'avenir et la difficulté dans laquelle je risquais d'être plus tard professionnellement du fait de la mondialisation, du fait plein de choses. Il y avait des espèces de craintes qui m'ont touché. Et en fait, j'avais du mal à savoir, en gros, à quoi ressemblait ma vie plus tard dans ce monde si hostile. Et cette anxiété que j'avais, elle m'a perturbé dans plusieurs domaines de ma vie, je pense, y compris mon rapport à l'alcool et ma sexualité. J'ai découvert l'alcool de merde, dans des situations où on bouffait un kebab et des fioles de whisky pour découvrir les effets. Je devais avoir 14-15 ans. Et l'alcool m'a pas mal permis d'arriver à me désinhiber et me permettait de me détendre un peu, de pas penser à des choses qui pouvaient me stresser ou créer de l'anxiété. Et je voulais que ma première relation sexuelle soit avec une meuf que j'aime. Et finalement, j'ai eu l'occasion de le faire avec une fille qui m'a fait comprendre qu'elle avait envie. J'avais 14 ans, on l'a fait. J'étais pas si alcoolisé que ça. C'est pas extraordinaire, mais en tout cas, j'ai pas eu besoin d'alcool pour le faire. Suite à ça, on va dire que je me suis aperçu que l'alcool, de par son pouvoir désinhibant, facilitait aussi le rapport avec les autres et même aux femmes à une époque où je connaissais pas encore vraiment mon corps, même si j'avais une première relation sexuelle et que une deuxième aussi avec juste après, c'était l'été de mes 14 ans, ce qui s'est très bien passé. J'étais avec une fille, c'était vraiment très très chouette, mais en tout cas, au début de ma vie sexuelle, j'avais pas de lien entre l'alcool et le sexe. J'avais des relations sexuelles épanouies, sans forcément avoir besoin d'être très très alcoolisé. Mais je pense que c'est un événement émotionnel fort que j'ai vécu plus tard, qui a transformé un peu mon rapport à l'alcool et à la sexualité. La première fille dont j'ai vraiment été très amoureux, c'est une relation qui a duré 2 ans et demi, 3 ans. On était heureux et elle a dû partir à l'étranger. mais ça devait très bien se passer entre nous. On était censé vivre une relation épanouie à distance. Et en fait, elle a décidé de finalement de laisser un peu tomber sa relation. Donc notre relation s'est terminée et je me suis senti abandonné, alors que j'étais très amoureux. Ça a été ma première rupture très douloureuse et qui, je pense, a ensuite justement eu un impact sur ma sexualité, parce que il y a aussi cet effet de t'as fait l'amour avec une seule personne pendant plusieurs années, tu redécouvres la sexualité avec d'autres personnes, ça peut créer de l'appréhension. Il y a toujours ce terrain anxieux qui faisait que pour se détendre et pour pouvoir justement réavoir une relation sexuelle avec une autre personne que celle que t'as aimée pendant longtemps et qui t'a laissé tomber, j'avais besoin d'alcool. J'avais 26 ans quand cette histoire s'est terminée et je crois que moi j'ai assez rapidement eu envie d'essayer autre chose. J'avais envie d'en guérir et pour moi c'était de vite avoir d'autres relations, même si j'étais pas prêt à avoir une relation amoureuse, des relations physiques. La première fois que c'est arrivé, c'était une soirée où j'avais pas mal bu. En fin de soirée, on n'était plus que deux et je me suis retrouvé dans la situation où l'acte sexuel allait avoir lieu et ça s'est passé, mais j'avais tellement bu que je m'en rappelle très peu. Mais surtout, il y a quelque chose, c'est que du fait que j'avais pas eu une relation sexuelle avec une autre fille que mon ex, dont j'étais très amoureux depuis 2 ans et demi, 3 ans, j'avais une crainte, une grosse crainte de ne pas performer. Et moi, ma crainte de ne pas performer reposait surtout sur une peur d'éjaculer rapidement. J'avais une espèce de crainte obsessionnelle de pas arriver à tenir longtemps et qui m'obsédait tellement que j'en suis venu à me renseigner pour savoir comment est-ce que faire à tout prix pour éviter une éjaculation rapide. J'avais regardé sur internet, je m'étais renseigné et j'avais acheté dans un sex shop un spray retardant qui t'anesthésiait en quelque sorte temporairement la zone. Donc du coup t'éjaculais moins facilement, mais c'était de la merde en fait. Je ressentais même plus de plaisir. Ça n'a pas duré très longtemps, mais j'ai eu cette époque-là où j'avais ça. Mais j'avais cette peur de la performance qui était vraiment toujours présente et qui a entraîné des consommations excessives d'alcool. Quand il y avait des rencontres, il fallait que je boive avant l'acte pour être détendu. Je buvais ce qui passait sans trop contrôler entre une bouteille et trois quarts d'une bouteille de hard, de vodka par exemple. Et en fait, cette quête de l'ultime performance, elle faisait que pendant l'acte, je me concentrais principalement sur le fait de ne pas éjaculer. J'étais pas du tout dans le ressenti du plaisir mutuel, dans la communion des corps. J'étais vraiment dans cette pensée performance. Et c'est pour ça que l'alcool permettait de faire taire un peu cette peur, cette anxiété de la performance et de l'éjaculation précoce. Mais ce qui est sûr, c'était que effectivement, quand tu te réveilles le lendemain, que tu te rappelles pas de tout, que la personne en face de toi, elle se rappelle pas de tout non plus, qu'en fait, ça a servi à rien. Finalement, le seul truc, c'est que dans toujours cette espèce de quête de la performance, tu te dis, c'est cool, je l'ai fait, j'ai couché avec elle. Mais en fait, à quoi ça sert? Parce que tu t'en rappelles pas. Tout est très bouillé, tout est très confus. Ça m'est arrivé 2-3 fois, effectivement, cette situation où je me rappelle de quasi rien le lendemain. Je me rappelle qu'on s'est embrassé dans la soirée, je me rappelle qu'on est rentré chez moi, mais je me rappelle pas qu'on est couché ensemble. Au début, c'était un truc qui me faisait rire de me retrouver un peu dans des états comme ça. Je me rendais pas trop compte de l'impact négatif que ça pouvait avoir sur ma santé, sur ma vie. J'avais pas de comportement dangereux pour les femmes que je voyais avec qui j'étais. C'était plutôt que j'étais complètement dans les vapes, j'étais une autre personne. Du coup, le lendemain de soirée, quand ça arrivait, je me sentais quand même con. Mais quand j'ai commencé à m'épanouir professionnellement et à découvrir ma voix, petit à petit, j'ai commencé à prendre confiance en moi. Et quelques années plus tard, j'ai rencontré quelqu'un qui était mon deuxième grand amour. J'ai eu une belle histoire avec elle et suite à ça, j'avais moins besoin d'alcool. J'avais plus ce problème de peur de la performance et ça se passait très bien sexuellement. Aujourd'hui, tout va très bien dans ma vie, je vis des relations épanouies, plus du tout sur cette espèce de peur de la performance. J'ai vraiment plus envie de revivre ce genre de situation, de m'être réveillé dans des bras et de pas me souvenir qu'il s'était passé quelque chose la veille. Aujourd'hui, je vois pas comment ça pourrait se reproduire, je suis passé à autre chose et ça c'était un mois d'il y a longtemps.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Charlotte Perronnet, j'ai 34 ans. Je suis ancienne journaliste, ancienne restauratrice. Aujourd'hui, je bosse dans l'anti-gaspillage alimentaire. J'ai grandi en banlieue ouest parisienne, coincée entre Versailles et Saint-Germain-en-Laye. Une famille avec deux parents encore ensemble et trois sœurs. Mon premier verre, moi, je l'ai bu à 13 ans. C'était un repas de Noël et on m'a servi un petit fond de sauterne, de vin blanc liquoreux. Et c'était vraiment pour ma culture générale. Goût de gamine, quoi. C'était un peu ce truc-là. Et ça, c'était servi par mes oncles, par ma famille. Et vraiment, en fait, c'était tous les cousins à partir de 13 ans, quoi, en gros, qui avaient le droit à ce petit fond. Et j'ai commencé à boire beaucoup en école d'ingénieur. En agriculture, là, à ce moment-là, moi, je bois pour m'intégrer, plusieurs fois par semaine, en soirée, des soirées qui sont souvent organisées d'ailleurs dans l'école. Il y avait un espèce de rythme de soirée, de trucs très festifs, mais hyper festifs. Ensuite, je fais Sciences Po à Paris, en école de journalisme. Quand j'arrive à Sciences Po, il y a ce truc de pourquoi s'arrêter, c'est hyper fun, quoi. C'est le moment où je commence à avoir un peu de mal à compter les verres. C'est plus deux verres, c'est plus trois verres, c'est plus quatre verres, c'est 20 verres en fait qu'il me faut. Mon entrée en sexualité, c'est à l'école d'ingénieur. Avec un garçon. On est bourré. Je pense qu'on peut le dire. On est un peu bourré. Et en même temps, j'ai tellement peur. Je suis vraiment effrayée. Et en même temps, j'ai très très hâte de la faire, cette espèce de fameuse première fois. J'ai 18 ans. C'est un garçon que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, après, on va vivre une petite histoire d'amour. Et cette première fois, c'est après une soirée où on a fait la fête avec les copains. Et c'est une chouette première fois. Je suis contente. C'est cool. Après, je suis restée un peu plus de 3 ans avec un garçon que j'avais rencontré en Erasmus, en Espagne. Je regarde un petit malaise en fait de cette relation qui était belle à vivre sur le moment, mais qui est tellement associée à la fête, qui est tellement associée à l'alcool. Et d'ailleurs, moi à ce moment-là, je dis toujours que j'ai qu'un seul critère pour la personne avec qui je sors, c'est qu'il faut que ce soit un épicurien, qu'il aime autant que moi le fait de picoler, de faire la fête, et de bien manger, bien boire, parce que c'est mon ADN quoi. Et c'est vrai que je me rends compte que notre sexualité est 100% ou presque associé à l'alcool. En 3 ans et demi de relation, je pense que le nombre de fois où on a une relation sexuelle ensemble sobre, je pense que je peux le compter sur les doigts d'une main, quoi. Il y a ce truc de l'alcool créer le désir, en tout cas chez moi. L'alcool rend excitant l'instant, et donc le fait que j'ai envie de coucher avec mon mec à ce moment-là. Et l'alcool est hyper présent. Et surtout, l'alcool va s'inviter à des moments où il ne devrait pas s'inviter. Je me rappelle de week-end. On a fait un truc la veille et on se réveille dans mon appart. Et je vais dans la cuisine préparer le café et tout. Et en fait, en préparant le café, j'ouvre le frigo et je vois un fond de bouteille de blanc. Et qu'est-ce que je fais? Je bois un peu de blanc. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois que j'ai bu pas grand-chose, j'ai envie de coucher avec lui. En fait, je trouve ça cool. Je me sens désirable, je le trouve désirable. Enfin, il y a un espèce de truc excitant, quoi. Donc ça, je le fais de temps en temps. Cette relation se termine, du coup, j'ai 26 ans et honnêtement, je suis au bout du rouleau. Vraiment, c'est compliqué. Je suis hyper triste, mais parce que... J'ai une petite voix dans la tête qui me dit que il est peut-être temps d'ouvrir les yeux sur qui je suis, qui j'aime et qui je désire, en fait. Et à 26 ans, je me retrouve littéralement effondrée sur mon canapé en train de boire de la Desperados, quoi. Pour faire taire cette petite voix à l'intérieur de moi qui me dit qu'en fait, qu'en fait, juste je pourrais aimer les femmes, quoi. La première fois que j'ai ressenti du désir pour une femme, en plus, j'étais même pas majeure, quoi. J'avais 17 ans. Et c'était la cousine d'une pote. Et en fait, à 26 ans, ça me revient en boomerang. Et sauf qu'en fait, ça n'existe pas dans mon monde parce qu'en fait, moi, j'ai pas d'exemple de femme lesbienne autour de moi. Et en fait, j'écoute absolument pas ce désir, quoi. Cette petite voix, elle me fait flipper. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je bois. Je bois pour faire taire cette petite voix. Je bois parce qu'en fait, je veux rentrer dans le moule de mes potes, je veux rentrer dans le moule de ma famille, je veux rentrer dans le moule hétéro. Et ça dure longtemps, quand même. Ça dure quasiment un an. Un an d'errance. En fait, je me plais pas, moi, à ce moment-là. Mon niveau de désirabilité personnelle est au plus bas. Et je me trouve beaucoup plus désirable quand j'ai bu. Et puis surtout, je vais aller me rassurer, en fait. Je vais aller me rassurer sur le fait que j'aime les garçons. Sauf que c'est de moins en moins supportable d'avoir une relation sexuelle avec un garçon. Alors déjà que j'avais peu couché avec des mecs en étant sobre, mais alors là, ça devient carrément impossible. Et ce qui se passe, en fait, c'est que pendant quasiment un an, je multiplie les rencontres amoureuses. Non, pas du tout les rencontres amoureuses. Elles sont pas amoureuses. Non, elles sont... c'est du cul. Juste du cul. Ça va des mecs que je rencontre en boîte et on va dans les toilettes, au chauffeur Uber, un trajet d'un quart d'heure que je fais monter chez moi. Mais ça, je le fais parce que je suis bourrée, quoi. Et que, en fait, j'ai tellement à cœur de me rassurer avec les mecs. Je veux qu'on me montre que je suis désirable et que mon corps de femme est désirable et que moi, j'aime les mecs. Sauf qu'en fait, pour rencontrer ces mecs, je bois. Et pour supporter d'avoir couché avec ces mecs, je bois. Il y a un truc très répété, quoi. Très mécanique, très... un peu triste. Et c'est aussi la première fois que je couche avec une femme. J'ai des flashs de cette bonne copine qui est devenue le temps d'une soirée un peu plus qu'une bonne copine. Et j'aimerais m'en rappeler, mais en fait, le fait est qu'on avait descendu 4 bouteilles de rouge. C'est un peu dommage, hein, parce que purée, enfin quoi. Enfin, je m'écoute potentiellement sur mon désir. Je me rappelle vaguement de son corps, mais tellement peu, voire pas du tout, quoi. Mais par contre, je me rappelle très bien du matin. Du matin où on se réveille, et le malaise, l'énorme malaise. Et après, on n'en parle pas. On n'en parle plus. Mais ça a rendu un truc possible. Ça a ouvert un champ des possibles, mais en même temps, ça fait flipper encore plus. Donc en fait, là pour le coup, en l'espace de très peu de temps, je rencontre beaucoup de mecs, quand même. Toujours très, très bourrés. Et de plus en plus alcoolisé, en fait. Vraiment de plus en plus alcoolisé, et y compris en journée. Plus je couche avec ces mecs, plus je me dis, c'est pas possible. Mais j'en viens à un stade de dégoût, presque, de moi, quoi. En me disant, mais c'est pas possible. Enfin, c'est pas du tout OK. C'est pas du tout OK, ce qui se passe. Et un matin, à 5h du matin, je suis au milieu de la rédaction dans laquelle je bosse. Et je me dis, mais c'est pas possible. Arrête tes conneries, écoute-toi enfin. Merde, j'installe une application de rencontre pour personnes queer. Et dans la journée, je match avec des femmes et je match surtout avec une personne. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, on décide de se voir, quoi. Je flippe de ouf et je bois des verres avant d'y aller. Et le date se passe très bien. Il y a un espèce de truc de « Oh, enfin !» Mais je me dis « Ah ouais, mais en fait, c'est possible, quoi. En fait, c'est OK d'être en date avec une femme. » Et on boit quand même ce premier soir, on boit pas mal. Et c'est moi qui l'embrasse. Et on rentre chacune chez soi. On se revoit très vite. Et on fait quelques dates comme ça. Et puis un date où on couche ensemble. Qui pour moi, finalement, est une vraie première fois, finalement. Celle-là, je m'en rappelle. Alors, elle est quand même alcoolisée. Je tremble de désir autant que je tremble de peur, je pense, ce jour-là. Et un moment fabuleux. Et s'en suivent plein d'autres moments fabuleux, en fait. Et dans un premier temps, je calme beaucoup ma consommation d'alcool parce que j'ai plus besoin de m'anesthésier. J'ai enfin le sentiment d'être à ma place, là où je dois être, et avec la personne avec qui je dois être. Mais le hic, c'est que la machine, elle est déjà lancée. Rapidement, mon rythme de soirée et donc de consommation d'alcool reprend. C'est comme ça que je lui fais très vite découvrir mon monde. Et mon monde, c'est dans la même soirée, on fait un apéro, un dîner, une soirée, un after. Et elle hallucine. Et ça ne fait que quelques semaines qu'on est ensemble. Je fais un coma le soir de mes 27 ans. Dans mon appart, elle dîne avec des copines, elle doit venir plus tard. Et en fait, elle arrive et je m'effondre complètement. Et elle me couche. Et en fait, elle s'occupe de moi. Le lendemain matin, je ressens un truc, mais alors... c'est la honte, mais la honte terrible. Heureusement, ce moment-là lui fait pas peur. Et elle me dit juste, ouais, fais gaffe quand même. Après, j'ai beau être très heureuse dans la vie, je bois. Je bois. Et à ce moment-là, c'est le moment où j'ouvre un restaurant. Je lâche le journalisme pour ouvrir un restaurant parce que je suis bien entraînée par un copain et que finalement, c'est hyper excitant et on y va. Et sauf qu'en fait, en ouvrant le resto, là, quand même, à ce moment-là, je bois beaucoup. Et je bois beaucoup au point que je bois jusqu'à 12 litres de bière par jour. Et c'est la descente aux enfers. C'est la descente aux enfers parce qu'il y a mon associé qui se barre au restaurant, parce que je me retrouve toute seule à gérer avec un gros crédit. Et moi, ma manière de gérer les problèmes à ce moment-là, c'est l'alcool. Et un jour, il y a un verre de trop. Il y a un verre de trop et les mots de ma compagne qui me dit « Mais en fait, ton problème, c'est pas le resto, ton problème, c'est pas ton associé qui s'est barré, ton problème, c'est l'alcool. Et si tu fais rien, moi, je vais me casser. » Je vais me casser parce qu'en fait, tu vas crever. Et elle me dit, donc tu vas crever et ça va me rendre très triste, donc je vais me marier avant de me rendre très triste. À ce moment-là, je me dis pas que je bois trop, je me dis surtout que j'ai très très peur de la perdre. Et donc, je vais aller voir un addictologue dès le surlendemain. Et l'addictologue me dit, voilà, oui, vous êtes alcoolique en fait, vous êtes malade. Donc, j'ai plus le choix que d'arrêter de boire. Et c'est horrible. Il n'y a pas de truc instantané de « Waouh, trop stylé la vie sans alcool !» Non, du tout. Mais j'ai vraiment envie de crever. Dans les premières semaines de sobriété, il y a une vraie fatigue immense de mon corps et donc absolument pas de sexualité. Je l'envisage même pas. Mon corps ne m'appartient plus. Il faut que je le soigne, ce corps. Il faut que je le soigne, ce corps. Et donc la sexualité est vraiment un non-sujet. Je l'envisage même pas. J'ai absolument aucun désir. Zéro libido. Et au bout de plusieurs mois, je me réapproprie doucement mon corps. J'apprends à en prendre soin de manière un peu convenable. Je fais beaucoup de sport. Quand j'arrête de boire, c'est une manière aussi de combattre l'envie. C'est que quand j'ai très envie de boire, je fonce à la boxe. Et au bout de plusieurs mois... mon désir sexuel revient. Mais en fait, je me rends compte d'un truc, c'est que je sais pas ce que j'aime, je suis pas certaine, à ce moment-là, d'avoir une sexualité sans alcool. Ça m'est déjà arrivé de coucher avec ma meuf sans être bourrée, mais tellement peu. Et du coup, je me réapproprie mon corps aussi par la masturbation. À me dire, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce qui me procure du plaisir, Et ça dure quelques mois. J'ai besoin d'avoir des sensations en étant sobre, en fait, rien que ça. J'avais peu de sensations, peu de plaisir sexuel en étant sobre, jusque-là. En tout cas, jamais en solo, quasiment. Et ouais, j'ai besoin de me savoir. Et au bout de plusieurs mois, il y a eu cette première fois, sans alcool, avec ma meuf. C'est drôle parce que j'étais à nouveau un peu effrayée, comme la vraie première fois, quoi. L'alcool a quand même un truc un peu anesthésiant. Et cette première fois sobre, elle a ce truc de... Waouh! Ah, mais en fait, quand on fait ça, je ressens ça. Ah, mais... Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de bouclier, il n'y a pas de... Tout est décuplé, et que ce soit en bien ou en mal, d'ailleurs. Et... Dans le sexe, il n'y a pas de mensonge sobre, parce qu'en fait, il n'y a pas de truc où on peut se cacher derrière une excitation de l'instant parce qu'on a bu. Et ça, c'est très bizarre, en fait. C'est très nouveau, hein. J'avais pas connu ça. Puis en fait, au début, moi, surtout, j'en viens à questionner un peu tout ce que j'ai fait sexuellement, parce qu'en fait, je me dis, mais attends, est-ce que... Enfin, je sais pas, est-ce que vraiment t'aimes cette position? Ou en fait, est-ce que c'était un truc qui te semblait normal, et en fait, une fois que t'es un peu bourré, ouais, c'est rigolo, quoi. En fait, on vient un peu à tout questionner. Et en même temps, c'est très plaisant. Déjà, c'est très très chouette de s'en rappeler parfaitement le lendemain. C'est très beau. Et en même temps, il faut dealer avec aussi. Hein. Ça a aussi son revers, quoi. Mais... Parce que parfois, c'est arrangeant quand même d'être excité par l'instant, d'avoir un peu ce facilitateur. Puis on se regarde moins aussi quand on est bourré. On s'autorise des trucs où on se dit moi je suis bourré donc ça passe. Non, quand on est sobre, juste on est sobre. Si on décide de faire tel truc ou tel truc, on le fait parce qu'on est sobre. Aujourd'hui, ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans que j'ai arrêté de boire. J'ai retrouvé quand même possession de moi, quoi. Je sais qui je suis mieux et je suis aussi très contente d'avoir retrouvé mon corps, ma sexualité. J'ai retrouvé ma libido. Ça, c'est quand même très chouette. Ce désir qui n'est pas dicté par l'alcool. Et surtout, je suis très heureuse de toutes ces premières fois que je vis depuis 3 ans. Parce qu'il y a beaucoup de premières fois, finalement. Don't ask questions. You don't wanna know. Learn my lesson. Way too long ago. To be talking to you, but I don't know. Should have taken a break, not an Oxford comma. Take what I want when I wanna. And I want you. Bad, bad news. One of us is gonna lose. I'm the powder, you're the fuse. Just add some friction. You are my strange addiction. You are my strange addiction. My doctors can't explain my symptoms or my pain, but you are my strange addiction. C'était Sexe et alcool, quand on boit pour faire du sexe, un reportage de Pauline Verdusier réalisé par Éric Lancien. Et c'est aussi l'épisode 12 de notre série Dernières nouvelles du sexe qui a été conçue avec la complicité d'Armel Landreau, Nathalie Bajot, c'est de l'enquête de l'INSERM Contexte des sexualités en France qui a été faite pour la NRS en partenariat avec Santé publique France. Et Libération, je le précise, est aussi notre partenaire sur cette série. Valentin Rémy, c'est l'attaché de production des Pieds sur Terre. Et Inès Bouffartic, Sébastien, c'est notre stagiaire. Merci pour cet épisode à Louis et à Charlotte Perronnet qui publie « Et toi, pourquoi tu bois ?» aux éditions de Noël. Wipe my glass, set myself on fire. Can't you tell I'm cracked? Can't you tell I'm worried? Tell me nothing lasts, like I don't know. You could kiss my ass, skin like you're my model. You should enter it in festivals or carnivals. Well, that's a pretty good reaction. Pretty cool. Right? You are my strange addiction. You are my strange addiction. My doctors can't explain my symptoms or my pain. But you are my strange addiction. Did you like it? Did you like that?
Which part?